Vous écoutez les Chroniques de l'Andalou, un balado qui raconte la jeunesse d'un Andalou irrévérencieux dans l'Espagne post-franquiste des années 80.
Les Chroniques de l'Andalou. L'Alfa Romeo. J'étais assis à la terrasse d'un café-bar de Palos de la Frontera en train de siroter un Fanta avec Jaime et David. L'établissement, qui s'appelait El Mastil, le Mât, était tenu par Pepe, un cinquantenaire que tout le monde connaissait dans notre petite ville. Pepe était un vétéran de la Légion espagnole, communément appelé chez nous un novio de la muerte, un fiancé de la mort. Il était un homme fier et autoritaire, qui était tant respecté qu'apprécié de ses clients. Surtout par les gamins du coin, car il nous offrait souvent des boissons gratuites. Il lui arrivait aussi de nous faire de longs discours sur le nationalisme, l'importance d'être un bon patriote et d'éviter à tout prix d'être un idiot sans opinion. Pour lui, les socialistes gauchistes qui dirigeaient le pays à ce moment-là signifiaient un retour à l'ère du communisme, quand l'Espagne était une république. D'ailleurs, Pepe affichait clairement ses couleurs. Avant d'entrer dans le bar, on remarquait trois drapeaux qui étaient accrochés sur la façade. Un drapeau andalou, un de la Légion et un de l'Espagne. À l'intérieur, une banderole était suspendue à l'arrière du comptoir, sur laquelle figurait le slogan fasciste « España una, España grande, España libre ». Pepe n'était pas seulement un tenancier de bar, mais aussi une sorte d'intervenant social. Il me cachait parfois dans sa réserve quand ma mère me cherchait lorsque j'avais fait des conneries. Son bar était le typique bar espagnol avec son comptoir en bois, son ventilateur au plafond qui ne rafraîchissait pas vraiment et des serviettes en papier dans des boîtiers en métal avec la marque de bière Cruz Campo imprimée dessus. Sur le comptoir, derrière une vitrine, étaient présentés les tapas du jour. Soit des petits plats d'olives, du fromage manchego, des gambas à la plancha et des tortillas de patatas. Un peu plus loin, près des verres empilés, était couché sur sa planche à découper une pâte complète de jambon pata negra. Au-dessus du comptoir, fixé au mur, une télévision transmettait les matchs de foot du championnat espagnol. Dans le fond de la pièce, des machines à sous cliquetaient aux côtés d'un distributeur de cigarettes. À l'époque, les jeunes d'âge mineur venaient y acheter des cigarettes pour leurs parents sans se faire questionner. Mais notre attraction favorite était sans contredit le flipper, où on venait engouffrer notre argent de poche. De nombreuses personnes se réunissaient au Mastil pour relaxer, discuter et regarder du football. Il faut savoir qu'en Espagne, ce genre d'endroit était aussi important que l'église. Les marins, les pêcheurs, les policiers et les ouvriers du coin y venaient. Car en plus de se situer aux abords de la Méditerranée et de l'Atlantique, Palos de la Frontera était une ville encerclée d'une zone industrielle. Donc ce jour-là, avec mes amis, on discutait tranquillement de nos plans pour la journée du lendemain. Quand on s'est fait interrompre par un terrible coup de klaxon qui était accompagné d'une musique assourdissante et d'un vrombissement de motorsport. C'était encore lui. Comment ne pas reconnaître celui qui se faisait repérer dans tout Palos de la Frontera par son coup de klaxon unique en son genre? Mais de qui je parlais? D'Alejandro, le frimeur de mauvais goût de Palos. En général, chaque village a son idiot, n'est-ce pas? Eh bien, Alejandro était le nôtre. C'était un idiot et il n'y avait que lui qui ne le savait pas. Il a stationné sa voiture devant le bar pendant qu'il martelait le rythme de la musique avec sa tête. Il a ensuite coupé le contact, puis il est sorti de sa voiture en fredonnant et en faisant de ridicules pas de danse. Quand il nous a aperçus, il n'a pas pu s'empêcher de nous balancer sa typique salutation.
« Hé, les petits merdeux, comment ça va ?»
Jaime serrait sa bouteille de Fanta entre ses mains en rêvant de la lui fracasser sur la tête. Alejandro a écarté le rideau de billes de bois qui pendait dans la porte du bar pour y entrer en s'annonçant et en se faisant accueillir par les clients à l'intérieur.
« Buenas caballeros, je suis de retour !»
Alejandro était un pêcheur d'une trentaine d'années qui se pavanait avec une risible coupe de cheveux à la Elvis Presley, son idole. Il scandait sans arrêt qu'un jour il irait vivre à Memphis, aux États-Unis, là où son idole était enterrée. Et en général, le niveau de ses sujets de conversation avait la profondeur d'une baignoire pour bébé. Il aimait porter des chemises déboutonnées dévoilant sa poitrine poilue, ainsi qu'une paire de lunettes de soleil Ray-Ban. On pouvait dire qu'il s'aimait beaucoup, mais l'amour de sa vie était sans aucun doute sa Alfa Romeo Giulia GT rouge écarlate décapotable. Sa magnifique voiture de collection des années 60 avait des angel livers qui brillaient au soleil et des sièges recouverts de cuir véritable. Alejandro l'avait acheté quelques années plus tôt pour une bouchée de pain à une riche veuve qui voulait s'en débarrasser. Comme un disque rayé, il se plaisait à dénombrer les conquêtes féminines qu'il avait rencontrées grâce à sa voiture et combien de débats sexuels s'étaient déroulés sur le siège arrière. Mais j'en doutais, car s'ils disaient adorer embarquer ses conquêtes dans sa décapotable, il leur interdisait formellement de toucher à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, quand il permettait à quelqu'un d'y embarquer, Alejandro installait une serviette avant que la personne puisse s'asseoir. Rare était ce qu'Alejandro autorisait à toucher sa belle voiture qu'il vénérait plus que sa propre mère. On l'avait appris, mes amis et moi, un jour on s'en était approché un peu trop. Il nous avait lancé en criant
« Hé, les petits merdeux, on touche avec les yeux, pas avec vos sales pattes !»
Les dimanches, il procédait à son nettoyage hebdomadaire, en sortant ses chiffons, ses produits nettoyants et son mini-aspirateur. Il adorait la laver, la lustrer, la cirer en profondeur. Il nettoyait même les rayures des pneus avec des tiges. Bref, il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. En plus, il ne la nettoyait jamais chez lui. Non, il le faisait devant le café de Pepe, à la vue de tout le monde. Chaque fois, il demandait un seau d'eau à Pepe. Il fallait à tout prix que l'eau soit chaude et super propre. Ensuite, il mettait de la musique et se mettait torse nu. Pepe lui demandait souvent, un peu exaspéré, s'il était vraiment nécessaire qu'il fasse cela devant son café. Mais je pense qu'il avait un peu pitié de lui. En général, on essayait d'ignorer quand il nous traitait de petits merdeux, même si cela nous agaçait au plus haut point. Jusqu'au jour où il a manqué de respect à la grande sœur de Pablito, l'un de nos amis. Sa grande sœur avait fréquenté Alejandro quelque temps. Un soir, il lui avait fait de la peine en l'engueulant comme du poisson pourri, car elle avait déchiré par accident un peu du cuir du siège arrière avec son talon aiguille.
Joder !
Alejandro l'avait laissée ensuite sur le bord d'une route déserte en pleine nuit à plusieurs kilomètres de chez elle. Pablito et mes amis réclamaient vengeance. Tout de suite, l'idée de s'en prendre à sa voiture a fusé. J'ai essayé de calmer mes amis en leur expliquant que pour ce mandat, la colère instantanée était définitivement mauvaise conseillère. C'est pourquoi j'ai préconisé une approche de vengeance de style gitane andalouse. Cela consistait à attendre aussi longtemps qu'il le fallait pour trouver le meilleur moment pour frapper. Alors abîmer sa voiture en lui crevant les pneus et en griffant la carrosserie, oui, c'était tentant. Mais ce scénario classique de vengeance pouvait faire penser que c'était la riposte de la sœur de Pablito, et donc possiblement nous incriminer. De plus, si Alejandro subissait un vandalisme classique, cela lui apporterait une certaine sympathie de la part des gens. Non, je voulais trouver quelque chose dont les esprits allaient se rappeler longtemps, mais surtout le principal concerné. Quelque chose qui aurait de l'impact, et qui le rendrait risible. Après une longue discussion avec mes amis, ils m'ont laissé la responsabilité de trouver le plan idéal. L'idée s'est présentée à moi sans effort alors que j'étais au supermarché avec mes parents. J'ai vu une mère avec un bébé dans ses bras dont elle venait de changer la couche. Après l'avoir replacé dans son landau, elle a jeté à la poubelle la grosse couche culotte qui semblait bien remplie. Et d'un coup, une idée saugrenue m'est apparue. On allait ramasser une grande quantité de couches souillées. Alejandro aimait nous traiter de merdeux. Eh bien, on allait lui servir de la merde. Et où allait-on mettre notre beau cadeau? Dans sa voiture, bien sûr. Mais mon casse-tête résidait dans la manière de le faire. La seconde partie de mon idée m'a traversé l'esprit au bar chez Pepe. Avec un de mes amis, j'étais assis à la terrasse en train de faire mes devoirs. Du coin de l'œil, on observait Manuel, le mécanicien de Palos, qui discutait avec Alejandro, qui gesticulait comme si la fin du monde venait d'arriver. Il lui montrait une petite déchirure sur le siège arrière de sa voiture qui avait été causée par la sœur de Pablito. Selon Manuel, la réparation allait être compliquée et coûter cher. Car même s'il s'agissait d'une petite déchirure, il allait falloir remplacer tout le cuir du siège arrière. Comme il s'agissait d'une voiture de collection, rien n'était simple quand il était question de réparation. Il lui a conseillé d'aller chez un concessionnaire à Séville. Mais quand il lui a dit que la facture risquerait d'être plus que salée, Alejandro s'est tenu la tête entre les mains. Manuel a alors lancé
« Bon, écoute, je sais que tu y tiens ta voiture. Donc si tu veux, je pourrais peut-être te trouver une solution. »
Alejandro a alors levé les yeux vers lui plein d'espoir.
« J'ai un de mes amis qui est spécialisé dans ce genre de choses. Mais ça va prendre du temps. Écoute, t'en fais pas, on va te faire un prix honnête. »
Alejandro a alors retrouvé le sourire d'un homme satisfait. Il lui a toutefois demandé comment il allait procéder pour réparer le cuir et surtout retirer le siège. Le mécano a tenté de le rassurer en lui expliquant.
« Tranquillízate, coño. Ce qui est génial avec ces voitures italiennes, c'est que les sièges se retirent très facilement. »
Manuel s'est exécuté. On l'a vu porter la main sous le siège en expliquant qu'un clapet permettait de retirer le siège et qu'on pouvait encore plus facilement le remettre en place.
« Tu entends un clap lorsque tu le retires et un clap quand tu le remets. » Même un enfant pourrait le faire.
Il a continué ses explications en disant qu'il allait déshabiller le siège pour ensuite le rhabiller en recousant le nouveau revêtement dessus. Alejandro était aux anges. Et il est retourné à l'intérieur du mastil avec Manuel en lui proposant de lui payer un verre. Au passage, il m'a ébouriffé les cheveux en nous lançant un
« Ça va, les petits merdeux ?»
Et c'est justement là, avec mes cheveux décoiffés, mais un sourire au coin des lèvres, que j'ai trouvé la deuxième partie de mon plan. On a laissé l'eau couler sous les ponts jusqu'aux vacances d'été, car on voulait qu'Alejandro se fasse installer son nouveau siège en cuir. Une fois fait, un important travail de prospection de couches souillées pour bébé a alors commencé. Avec Pablito, Jaime et David, on s'est organisé pour avoir accès aux poubelles de l'aile pédiatrique d'un hôpital. Il s'agissait du meilleur endroit pour recueillir un nombre important de couches en peu de temps et d'éviter les casse-têtes au niveau de la logistique de stockage. De massives poubelles en métal se trouvaient à l'extérieur. Il fallait simplement escalader un grillage pour y avoir accès. On a extirpé d'une des poubelles deux gros sacs qu'on a éventrés pour en extraire les couches. La partie pénible a alors débuté. Il fallait procéder au triage. Entre les mauvaises odeurs et les déchets non identifiés, qui nous donnaient envie de vomir, on espérait vraiment que notre plan allait fonctionner. Cela nous a pris une bonne heure. Une fois notre triage terminé, on est reparti avec notre butin bien emballé. Il fallait maintenant trouver la façon dont on allait procéder pour placer toutes ces couches culottes sous les sièges de l'Alfa Romeo. Ce qui nous facilitait la vie, c'était que puisqu'Alejandro était pêcheur, son travail l'amenait souvent en haute mer durant quelques jours. Il laissait tout le temps sa voiture au stationnement du port, près des embarcadères. Une fois la flotte des bateaux en mer, il y avait rarement quelqu'un qui passait dans le coin. Un soir, on est arrivé en vélo BMX, tel des ninjas équipés de nos sacs. On a localisé la décapotable stationnée sous un réverbère de lumière jaune. On a vérifié attentivement que personne ne nous observait. Puis, on a commencé le démontage des sièges. Avant de commencer notre méfait, on s'est assis derrière le volant en faisant semblant de conduire. Jaime a imité Alejandro qui nous ordonnait de débarquer.
« Hé, les petits merdeux, sortez tout de suite de ma voiture !»
Et on a même trouvé des magazines porno dans la boîte à gants qu'on a évidemment feuilleté.
« Mira sus tetas !»
Ensuite, on s'est mis au travail. Manuel le mécanicien avait raison. Les sièges se démontaient aussi simplement que des cubes Lego. On était un peu nerveux, mais tellement excités. Une fois tous les sièges retirés, la voiture paraissait presque nue. Équipée de gants en caoutchouc et de chiffons autour du nez, car l'odeur était intenable, on a commencé à placer les couches dans l'espace vacant sous les sièges. On a procédé avec minutie, en posant les couches l'une après l'autre, pour former des étages comme le ferait un maçon avec des briques, en prenant soin de ne pas trop les écraser. Ce n'était pas toujours évident, car les couches souillées avaient des formes irrégulières. Une fois notre travail terminé, on a rapidement enfourché nos BMX pour filer dans la nuit. Pablito m'a demandé en riant.
« Et maintenant, on fait quoi ?»
J'ai répondu en souriant. « Maintenant, nous, on ne fait rien. On attend et on laisse juste notre ami le soleil faire son travail. » Effectivement, il allait juste falloir attendre le retour d'Alejandro pour voir le résultat de notre stratagème. D'ici là, notre mot d'ordre était interdiction de retourner au stationnement, juste au cas si quelqu'un nous aurait vu traîner autour de la voiture. Discrétion avant tout. Quelques jours plus tard, Alejandro est revenu au café. Mais il semblait très mécontent. Pour la première fois, il n'a pas garé sa voiture à l'avant. Pour notre part, on était assis en terrasse, et il est passé à côté de nous sans nous lancer sa salutation habituelle. On s'est regardé surpris et intrigué. Nos cœurs battaient la chamade. À l'intérieur, Alejandro discutait avec Pepe, avec qui il a partagé son souci par rapport à sa voiture. Depuis son retour, une odeur pestilentielle s'en dégageait, mais il lui était impossible de savoir ce que c'était. Il avait beau la laver en profondeur et accrocher des petits sapins sans bon à l'intérieur, rien ne fonctionnait. On aurait dit que sa voiture abritait une petite forêt d'arbres multicolores. Manuel a brièvement inspecté la décapotable, mais il lui était impossible de mettre le doigt sur l'origine de l'odeur infecte. Vu son intensité, il pensait peut-être à un grave problème de carburateur, ou bien un petit animal mort en décomposition coincé quelque part dans la voiture. Par contre, pour le trouver, il allait falloir démonter plusieurs parties du véhicule. Cela serait un long travail et donc coûterait cher en main-d'œuvre. Pendant ce temps, les jours passaient et l'odeur s'accentuait sous l'intense chaleur estivale. Comme prévu, la matière fécale des bébés faisait très bien son travail. Tellement bien que l'odeur avait imprégné les sièges, ce qui rendait Alejandro complètement fou de rage. À un tel point qu'il aurait voulu se débarrasser de sa décapotable, car les gens commençaient à rire de lui. D'ailleurs, il avait cessé de venir au café en voiture, car Pepe lui avait demandé de ne plus se garer proche de son établissement, puisque l'odeur qui en émanait levait le cœur à ses clients. Pour notre part, on était euphoriques que notre stratagème ait aussi bien fonctionné. L'odeur était carrément intenable quand on passait à côté du véhicule. Quelques jours plus tard, Alejandro a débarqué au café complètement révolté. Il a annoncé à tout le monde qui était présent que Manuel le garagiste avait trouvé l'origine du problème.
« Des fils de pute ont été placés des couches souillées sous les sièges de ma voiture! Si j'attrape ces ordures, je vais leur faire bouffer toute la merde qu'on a trouvée !»
Il a alors expliqué en rageant qu'il devait maintenant remplacer tous les sièges, car ils étaient irrécupérables et qu'il fallait procéder à un nettoyage spécial de l'habitacle complet chez le concessionnaire Alfa Romeo à Séville. En d'autres mots, il allait devoir cracher des pesetas. Muchas pesetas. Pepe a tenté de le calmer pendant que la clientèle présente se moquait de lui. Pour notre part, on riait à gorge déployée. Plus tard, Pepe est venu à notre table pour nous servir des boissons qu'on n'avait pas commandées. Il nous a regardés en souriant et nous a fait un clin d'œil en disant
« Hé, les jeunes, je me demande bien qui a pu faire ce coup-là, Alejandro, pas vous ?»
Pour toute réponse, on s'est contenté d'un haussement d'épaule en buvant nos Fanta à la paille.